Radio Okapi. Okapi. Okapi Service. Tati Mampoukou. Okapi.
Nous voici dans la seconde partie du magazine Okapi Service de ce mercredi. Quelle est la place de l'éthique et de l'équité sociale dans le processus de l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service avec le professeur Daniel Moulenda Lomena et Mamba. Il est docteur en sciences économiques et de gestion de l'Université de Kinshasa et président exécutif du CIRAD ASBL. Bonjour professeur et bienvenue dans ce rendez-vous d'Okapi Service.
Bonjour mon frère.
Chers auditeurs et auditrices, si ce thème vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous lisons par exemple les commentaires de Guy Kambouille de Kananga qui salue la signature de cet accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il souligne cependant, il dit qu'il faut cependant noter que le respect des clauses dépend de la bonne foi des acteurs sociopolitiques de la RDC et du Rwanda et ce sont les États-Unis qui doivent veiller à l'application stricte de cet accord. Nous entendons également vos commentaires dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui anime et coordonne ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Billy Landry Betou réalise et assure la prise de son et Paul Badianyama est à l'édition multimédia. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de cette seconde partie du magazine Okapi Service.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi ou encore le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Quelle est la place de l'éthique et de l'équité sociale dans les processus de l'accord de paix signé entre la République démocratique et le Rwanda? C'est de ces thèmes que nous sommes en train d'aborder avec le professeur Daniel Moulenda. Nous rappelons qu'il est docteur en sciences économiques et de gestion de l'Université de Kinshasa. Chers auditeurs, si ce thème vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. La RDC et le Rwanda ont signé un accord de paix à Washington le 27 juin dernier. Et cet accord vise à rencontrer la stabilité et à renforcer la stabilité et la sécurité dans la région des Grands Lacs africains en mettant fin aux hostilités et en promouvant des relations pacifiques entre les deux nations. Au lendemain de la signature de cet accord, des tribunes ont été publiées dans les réseaux sociaux, dans les médias, sur les avantages et les inconvénients, la faisabilité de cet accord de paix sur le terrain. Alors, quels sont les préalables à tenir compte pour que cet accord puisse effectivement ramener la paix et booster le développement de la région des Grands Lacs, des pays des Grands Lacs. C'est de ces thèmes que nous sommes en train d'aborder dans cette seconde partie du magazine Okapi Service. Professeur, enfin, l'accord a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda le 27 juin dernier. Et dites-nous, c'est pas le tout premier accord entre les deux nations pour amener la paix depuis plus de 30 ans, des conflits qui persistent depuis les années 90. Dites-nous, quelle est votre perception sur ces documents qui a été signé le 27 juin dernier et qui suscite des débats dans les réseaux sociaux et dans les médias depuis le 27 juin dernier, la date de sa signature?
Merci mon frère. J'ai lu l'accord. En fait, quand vous lisez les termes de l'accord, si vous êtes un homme honnête, vous devez saluer ces documents et féliciter ceux qui ont travaillé à son élaboration. Ça suscite beaucoup d'enthousiasme, même parmi les Congolais. Mais il y a certains qui sont quand même assez hésitants, d'autres qui sont même hostiles. Mais moi, je voudrais dire que lorsque deux parties se mettent ensemble pour conclure un accord, pour aller vers une certaine direction, comme pour ce cas, c'est la direction de la paix d'abord.
Exactement.
Et puis la deuxième direction, cela sera la prospérité économique des pays de la région qui va résulter de l'exploitation des ressources minières en République démocratique du Congo. Voilà. Moi, ce que je peux vous dire, que les termes sont bons. Est-ce que l'accord est bon ou il est mauvais? Là, je me dis, c'est la mise en œuvre qui va déterminer. Et quand on parle de la mise en œuvre, mon frère, je voudrais te dire que sur cet accord pèse, il y a des pesanteurs qui sont suspendus sur cet accord sur le plan de l'éthique. Le plan de l'éthique. Je vais prendre ça sur trois dimensions. Je prends d'abord les parrains de l'accord. Les parrains de l'accord, ce sont les champions du capitalisme, de la mondialisation.
Qui sont les États-Unis?
Les États-Unis, aujourd'hui le Qatar qui est en train d'emboîter le même chemin. Et nous connaissons leurs méthodes. Ils ont des objectifs qu'ils veulent atteindre. Je voudrais dire, c'est la première fois qu'une grande puissance se mêle dans ces débats. Ça donne quand même un espoir. Mais le problème, c'est la méthode. C'est pas pour la première fois que les États-Unis veulent intervenir dans un pays. Les États-Unis ont intervenu en Irak, n'est-ce pas? Le monde occidental a intervenu en Libye. Je me demande si la paix a été restaurée dans ce pays-là.
Non, c'est de l'anarchie et puis la situation, la paix n'en a pas été ramenée, donc c'est compliqué. La stabilité socio-économique de ces pays, de ces nations, laisse à désirer jusqu'aujourd'hui.
Et dans ces nations que je venais de citer, par exemple l'Irak, les troupes américaines étaient même sur le terrain. Mais ici, on n'a pas prévu que les troupes américaines interviennent. Donc vous comprenez que là, il y a une grande pesanteur. Est-ce que pour la première fois, ils vont changer leurs objectifs, leurs méthodes, parce qu'ils sont en République démocratique du Congo? Je me pose la question. Parce qu'en fait, il ne faut pas qu'on soit trop enthousiaste. L'accord, les termes sont bons. Les négociations ont été bien faites. Mais les objectifs des acteurs. Deuxième pesanteur sur le plan éthique, c'est le Rwanda. Vous avez déjà compris les sons qui ont commencé à être émis par
à partir du Rwanda.
À partir du Rwanda. Nous sommes en diplomatie. En fait, la diplomatie, c'est comme on dit dans nos villages, que c'est l'art de ne pas voir la vérité. Vous voyez que c'est rouge, vous dites non, ça peut être vert. Moi, j'ai entendu certaines autorités rwandaises commencer même à se poser des questions. Je me dis, est-ce que pour cette fois-là, le Rwanda respectera les termes de ce qui est écrit? Moi, je suis sceptique. Sceptique parce que j'ai lu dans l'accord que ça tourne autour, pour le Rwanda, autour de la neutralisation
des FDLR.
Des FDLR. Je me pose la question. Mais si les troupes rwandaises peuvent prendre Goma, si je veux prendre Bukavu, mais avec les renseignements, ils savent là où les FDLR se trouvent. Pourquoi ils ne sont pas allés là-bas?
Oui, mais quand vous dites la dimension éthique, c'est au niveau des acteurs qui sont associés à ces processus du côté de la RDC et du Rwanda, professeur.
Non, j'ai parlé d'abord du côté de Parrain. Je suis en train de parler du côté rwandais et j'ai parlé du côté de la République démocratique du Congo. Vous comprenez du côté rwandais qu'ils n'ont jamais été sincères. En fait, ils n'ont jamais exprimé ce qu'ils veulent. Et je crois que moi, je vais être un peu réaliste. Aujourd'hui, la situation actuelle arrange le Rwanda. Parce que nos minéraux sont transformés au Rwanda. Les grandes multinationales utilisent le Rwanda comme étant l'intermédiaire dans ces chaos-là. Est-ce que le Rwanda est prêt vraiment à pouvoir quitter ses conforts de pierre pour rentrer dans une situation normale, transparente, où on saura combien de tonnes sont sorties, combien ont été retraitées, qu'est-ce que le Rwanda a gagné, qu'est-ce que le Congo a gagné. Et dont nous savons qu'à la base, c'est des revendications territoriales. Moi, j'ai appris, par exemple, qu'au Rwanda, on enseigne à leurs enfants que toutes les contrées voisines qui ont des collines, c'est les terres rwandaises. C'est là où j'ai dit, il y a un problème de sincérité. Je crois que le Rwanda n'est pas sincère.
Sincère dans la démarche.
Oui. Alors, pour la aide des Congo, laissez-moi terminer. Quand vous lisez cet accord, vous voyez qu'il y a du chemin à faire dans le démantèlement de tous les groupes armés. C'est-à-dire que la guerre n'est pas encore terminée.
Fini, non.
Alors, la guerre va continuer.
Non, mais en même temps aussi, à Douan, le M23 négocie avec le gouvernement à Douan.
Nous allons arriver à Douan. Je voudrais terminer la part de la RDC. Dites-moi un peu, mon cher frère. Le démantèlement de ces troupes-là, même les FDLR ou les groupes armés qui travaillent avec celui-là, ça va demander la mobilisation des fonds.
Des ressources.
Des ressources. La question que je me pose, avons-nous résolu, nous, Congolais, d'agir autrement dans la mise en application de cet accord? Parce que nous savons comment nous agissons jusqu'au jour.
Ça doit nous interpeller, oui.
Est-ce que ces processus de mise en œuvre, qui sera long, parce qu'on parle de trois mois, il n'y aura rien. On va dépasser les 3 mois.
Tout à fait.
Il y aura mobilisation des fonds. Il faut un engagement éthique. Dans les processus de la part de la partie congolaise. Parce qu'en fait, notre grande faiblesse, comme Congolais, peut-être moi qui vous parle aussi, et vous qui m'entendez, c'est l'éthique.
Parce que nous sommes Congolais.
Parce que nous sommes Congolais. L'éthique. L'argent va tomber. Nous allons bien les gérer. Nous allons respecter les conditions qui peuvent permettre que ceux qui vont aller exécuter cet accord aient tout ce dont ils auront besoin pour faire la part du Congo. Là, il y a une grande pesanteur sur les comportements du Congo. En fait, je vais conclure par là pour dire l'accord, les termes sont bons. Et j'ai même apprécié l'intelligence qui a été utilisée dans cet accord. Le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État chargé des questions économiques l'a dit. Il ne faut pas qu'on se trompe. Parce que nous parlons beaucoup de souveraineté en termes de mines. Mais il a rappelé les accords de 1885 où les gens s'étaient réunis pour donner des frontières à ces grands pays que nous appelons le Congo. Il a rappelé la notion
qu'il y a 9 voisins avec des limites naturelles et artificielles.
Il a rappelé la notion de l'État indépendant du Congo. C'est-à-dire que nous sommes nés comme un État indépendant parce que le Congo, c'est une terre de commerce pour l'ensemble des nations du monde. Le deuxième volet de l'accord est en train de remettre en force l'esprit
de l'accord de l'EIC de l'époque.
Voilà.
Professeur, permettez-nous d'aller au standard. Il y a des auditeurs qui attendent.
D'accord.
On va leur donner la parole et puis nous allons retourner ici au studio pour continuer notre entretien. Quelle est la place de l'éthique et de l'équité sociale dans les processus de l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? C'est de ces thèmes que nous sommes en train d'aborder dans cette seconde partie du magazine Okapi Service. Chers auditeurs et auditrices, si ces thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à nous appeler hein, pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct.
Votre connexion internet est trop lente? Radio-Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes mails. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mails, c'est gratuit. Radio-Okapi.net à votre service.
Le premier auditeur, il intervient depuis la ville de Bukavu. Nous sommes là au sud Kivu. Il s'appelle Éminent. Monsieur Mwanda, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour, monsieur Tati. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Tati.
Nous vous écoutons.
Pour que l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda soit prévu, durable et acceptable, monsieur Tati, le titre et l'équité sociale doivent jouer un rôle central. Voici leur place préalable à concrétiser. 1. La place de l'éthique, monsieur Tati. L'éthique dans le processus, d'abord, doit commencer par la vérité et la transparence. Toutes les causes du conflit qui sont présumées au M23 d'exploitation légale des ressources éthiques doivent être abordées sans hypocrisie. Deuxièmement, le respect des engagements. Les deux parties doivent agir avec bonne foi et responsabilité, en mettant l'intérêt des populations avant leur statut politique. Troisièmement, la justice transitionnelle, devoir des mécanismes pour que les victimes de guerre obtiennent réparation ou reconnaissance. Deuxièmement, la place de l'éthique sociale et du statut, il y a d'abord l'inclusion de toutes les communautés concernées, et ensuite la répartition équitable des bénéfices de paix. Accès, équitabilité et aux services publics pour que cet accord-là vraiment profite aux populations qui ont souffert pendant plusieurs années avec l'insécurité.
Oui.
Et aussi la non-marginalisation des réfugiés de place interne et victimes de conflits.
Oui, monsieur Éminent, à la lecture des événements, pensez-vous que les acteurs impliqués dans ces processus ont la bonne foi d'y aller dans le sens du respect de l'éthique et de l'équité sociale?
Il n'y a pas d'abord de bonne foi, monsieur Tati, parce que depuis que la guerre a été déclarée ici à l'Est, le Rwanda n'a jamais accepté son implication dans le conflit. Mais ce qui nous étonne beaucoup plus, quand nous voulons chercher la paix, on commence d'abord par le Rwanda en excluant les vrais acteurs dans ce conflit. Selon moi, je pensais que l'accord de paix devait d'abord être signé entre le parti belligérant. Si je peux bien citer, il y a le 1-23 ainsi que le gouvernement congolais. C'est d'abord ces deux parties-là qui sont dans les terrains, qui sont dans les champs de combat, qui devraient s'attendre pour chercher la véritable paix, pour maintenant penser aux autres soutiens. On ne peut pas commencer par les gens que vous présumez être soutiens pour maintenant finir avec les vrais acteurs. C'est pour cela que j'espère que cet accord-là puisse aboutir à sa mission, soit à son objectivité. Parce que on a déjà fait un faux pas, on a commencé par les mauvais débats, on a écarté les vrais acteurs pays qui soutient les conflits. C'est pour cela que moi je peux poser la question, pour ça c'est deux ou trois questions à l'invité.
Allez-y rapidement.
Premièrement, quelles sont les conséquences ou quels sont les avantages et les inconvénients que la RDC va tirer à la signature de cet accord. Parce que tout accord doit nécessairement d'abord commencer par... chaque partie, quand chaque partie doit tirer des conséquences, des avantages ou des inconvénients. Mmh. Maintenant, qu'est-ce que la RDC a perdu en signant cet accord? Et l'invité qui va nous aider à nous réfléchir, qu'est-ce que la RDC a gagné en signant cet accord? Ça, c'est la deuxième...
La première question.
La deuxième question, la première question, la dernière, de cet accord. Que l'invité nous aide à éclaircir l'opinion ici. À quand le retour de la paix sera ici au Kivu, dans les zones occupées? Parce que l'accord est signé, mais jusqu'à ici, le terrain, il n'y a rien qui a changé. Les Ouazalènes doivent continuer à attaquer les positions de M23 ainsi de suite. Alors, quand est-ce que les atrocités vont cesser dans des zones occupées?
Merci beaucoup, M. Eminent. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bukavu. Nous sommes là au sud Kivu, qui est une zone occupée. Hein. Vous intervenez de là et excellente journée, M. Eminent Mwanda. On revient ici à Kinshasa pour donner la parole à Elvis. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour Tati, bonjour aussi à notre invité.
Salut.
Alors, je voulais seulement rebondir sur ce que mon procédé aussi vient de dire, parce que on va un peu dans le même sens ce qu'il a dit, parce que les mêmes questions que je voulais poser, il a aussi posé, mais je vais ajouter un. Mm. D'abord, je voulais dire pour le problème de la sincérité et d'aider sur ce qui s'est produit sur terre, ici, premièrement. Nous savons que l'accord a été signé. Mm. On n'a pas encore choisi la comité de suivi. On n'a pas encore validé, parce qu'il faut encore qu'il y ait la rencontre entre le président congolais et le président rwandais. Je pense qu'après le débrief du ministre de l'étranger avec le ministre de la communication, mm. on a eu la réponse du président rwandais sur tout ce qu'il a dit. Mm. Moi, je peux dire en un mot que nous sommes un peu trop vite allés à la besogne, alors qu'on devait d'abord attendre les réactions des chefs de pays, alors que nous étions les premiers à sauter sur la dessus, parce qu'on a dit, on a vu beaucoup de marches ici, les gens marchaient, qu'on aille encore, pensant peut-être qu'il y a déjà une solution. La question que je pose à notre invité, la réaction du président Kagame suite à ce qui s'est fait ici, parce qu'on a vu chaque parti politique, chaque membre de l'Union sacrée devait manifester, devait montrer qu'il est d'accord à suivre cet accord. Alors que la comité de suivi, on n'a même pas encore taxé, parce qu'il faut que cet accord puisse passer d'abord par le Parlement pour qu'il y ait la validation. Maintenant, tout le monde se précipite pour se féliciter, comment la solution est sur ça. Alors qu'on n'a pas encore une suite favorable, alors qu'il faut au moins 30 et 90 jours pour qu'il y ait la validation. J'ai d'abord des questions.
Allez-y, posez rapidement. Question, oui, c'est des questions, oui, on vous écoute.
Oui, qu'est-ce que la RDC a gagné à signer cet accord?
Mm.
Qu'est-ce que le Rwanda gagne à signer cet accord? Mm. Qu'est-ce que nous perdons? Qu'est-ce que nous acceptons de perdre? Parce que la paix ne se négocie pas, mais la paix, ça s'arrache. Ça, c'est pour que nous sommes dans un état de faiblesse, c'est pourquoi nous sommes en train de passer par toutes ces voies. Alors, nous sommes obligés à accepter toutes les conditions qui nous seront obligées. Vous savez bien qu'après l'accord de Washington, on nous a obligés d'aller à quoi? À droit pour trouver les résolutions, pour maintenant trouver la dernière copie. Vous comprenez que nous sommes toujours dans une position où on doit accepter toutes les conditions qui nous seront imposées. Même dans l'accord, vous avez trouvé que le Rwanda a trois conditions, alors que l'un des semaines
qu'il y a. Oui, Monsieur Elvis, les assises se sont déroulées simultanément à Doha puis aux États-Unis. Hein.
Mais l'État civil n'a pas conclu. Si vous ne savez pas, l'État n'a pas conclu. Il a laissé d'abord à suspense qu'on trouve d'abord la solution à Doha et à Doha qu'on vienne se finir. Si vous ne savez pas, il faut vous informer.
Merci beaucoup, monsieur Elvis. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Tous, on est derrière l'actualité. Donc, au quotidien, nous recoupons les informations. Excellente journée au niveau de la ville de Kinshasa. Cette fois-ci, on part à Kisangani dans la Tchopo pour donner la parole à monsieur Saïdi. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Oui, bonjour, cher Tati. Bonjour à l'invité.
On vous donne la parole.
C'est une thématique qui fait à l'aïm. Hein. Mm. Vraiment, chérie, Tati, l'intégration de l'éthique et de l'équité sociale sont essentielles pour garantir la légitimité et la durabilité de tout processus de paix. Dans le cadre de l'accord signé entre la RDC et le Rwanda, ces dimensions apparaissent insuffisantes, prises en compte tant sur le plan de la justice que de l'inclusion sociale. L'absence de reconnaissance des victimes, le manque de transparence dans les négociations et marginalisation des communautés locales compromettent la construction d'une paix véritable, cher Tati. Pour que tel accord produise des effets positifs à long terme, il est impératif d'intégrer des mécanismes fondés sur la vérité, la justice, la participation citoyenne et la réparation équitable des préjudices subis. Cher Tati, je dois demander à l'invité quelques questions. Voici la première. Pourquoi la signature de cet accord viole l'article 214 de la Constitution? La deuxième, à quoi l'accord entre la RDC et le Rwanda respecte-t-il ou viole-t-il les principes éthiques fondamentaux? Et pour citer, l'absence de la justice et d'équité sociale peut-elle compromettre la mise en œuvre effective et durable de l'accord? Voici les trois questions, cher Tati.
Merci beaucoup, M. Saïdi. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kisangani, dans la Tchopo, que vous intervenez. Excellente journée. Professeur, je me tourne vers vous. Comment répondez-vous à nos auditeurs? Commençons par Éminent de Bukavu.
Ouais. En fait, tout le monde est préoccupé pour savoir qu'est-ce que la RDC gagne, qu'est-ce que la RDC perd. Et je voudrais rappeler à nos auditeurs que c'est depuis plus de, je crois, 30 ans maintenant que nous sommes en guerre. Hein?
Tout à fait.
Je crois que cet accord doit être salué comme un élément supplémentaire que nous avons construit sur le chemin de la paix. Je crois que les gens doivent se rappeler que la guerre se passe sur le territoire de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous devons être enthousiastes plus que les Rwandais, parce que la guerre ne se passe pas chez eux. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix pour reconstruire notre pays. La guerre se passe chez nous. Tout ce qui peut nous mener vers la paix, nous allons être pressés de les saisir, pressés de l'embrasser, pressés de l'essayer, pressés de les tenter, jusqu'à ce que nous saurons que ça ne mène pas vers la paix et nous nous retirons. Donc la RDC va gagner la paix d'abord. Nous voulons la paix. Deuxièmement, cet accord contient un volet économique. Et la RDC veut que l'exploitation des minerais ne se fasse pas de la manière clandestine comme aujourd'hui. On veut la transparence pour que nous puissions vivre aussi de ces richesses qui sont chez nous. Pourquoi on laisserait la guerre pour que les gens puissent faire des trafics de nos minerais dans l'informel, dans l'anarchie, et que nous-mêmes, d'un côté, on meurt et de l'autre côté, on perd tout ce que nous avons sur notre territoire? Alors, qu'est-ce que nous perdons? Moi, je peux vous dire que nous ne perdons rien. Ceux qui croient que le volet économique, nous allons perdre, on ne va pas perdre. Nous n'allons pas perdre.
Au contraire, nous allons gagner.
Nous allons gagner
si l'accord est d'application.
Est d'application parce qu'il y aura la mise en valeur de ces minéraux.
Et la transparence dans la gestion dans la région.
Tout à fait, nous allons gagner. Parce que, écoutez, Tati, je vais dire quelque chose. Hein. Je vais la dire à haute voix. Parce que nous, les Congolais, par moment, tu vois, je baisse un peu la voix. Mais les auditeurs m'écoutent. Nous nous targuons toujours nos minéraux. Avons-nous les moyens de les exploiter?
Non, sincèrement.
Mais si nous n'avons pas les moyens de les exploiter.
Ni la technologie.
Ni l'argent. Mais nous restons seulement, nous sommes un pays souverain, ce sont nos minéraux, tout ça. Non. Il faut qu'on revienne à l'esprit de 1885. Que ceux qui ont l'argent et la technologie viennent avec nous. Mais dans la transparence. C'est ce que le président américain a dit. Si ça se réalise, nous serons les grands gagnants. le chômage va diminuer, le salaire moyen va augmenter, nous aurons des routes.
Oui, mais l'auditeur de Bukavu, M. Minon, il est revenu sur l'importance de l'éthique sociale, hein, de l'éthique et de l'équité sociale, parce que entre-temps, pendant les temps d'années, il y a eu des victimes, il y a eu des dégâts collatéraux dans la région. Oui, c'est vrai, on va ramener la paix dans la région, mais en même temps, il y a des victimes, il faut également qu'il y ait réparation au profit des communautés impactées par ces conflits armés.
Tout à fait, mais c'est ce que je voudrais, je devrais arriver là. C'est-à-dire, nous avons tellement besoin de la paix, nous avons besoin de l'équilibre social, nous avons besoin
de réparation,
nous avons besoin.
Mais il faut commencer quelque part.
Nous devons savoir que là, nous sommes encore au niveau des stratégies géopolitiques. Nous sommes au-dessus de ça. Lorsque nous allons régler les problèmes entre les grandes puissances et nous, en tant qu'État, lorsque le Rwanda et la RDC vont se mettre d'accord sur la paix, mais c'est dans la paix, en temps de paix,
que tous ces aspects
vont être réglés.
Exactement.
Mais on ne peut pas régler
chapitre
ça.
Chapitre par chapitre.
Chapitre par chapitre. Et regardez, les négociations de Doha. Est-ce que vous en connaissez les résultats? Non, pas encore.
Là.
Comment vous voulez que l'accord de Washington règle les problèmes des réparations, par exemple? Et puis, il y a un auditeur qui a dit le fait que le M23 a été mis en dehors de l'accord, ça ne va pas marcher. Non, c'est pas ça la raison qui peut bloquer la mise en œuvre de l'accord.
Parce que les négociations continuent.
Non, parce que Kinshasa. Et là, j'apprécie le courage et la détermination du président Tshisekedi. Il avait dit que lui va négocier avec le président rwandais. Ce qu'il a voulu, il a obtenu.
Oui, il a arraché ça.
Mais les gens voient ça comme étant une chose banale. Non, c'est une grande victoire sur le plan diplomatique. Il a dit pendant les années, il négociera avec celui qui fait la guerre au Congo.
Parce que le problème, c'est les Rwandais.
Il est allé arracher la signature du Rwanda. Nous, à Kinshasa, nous considérons que le M23, c'est un valet du Rwanda. Si le Rwanda a signé, nous voyons dans la signature du Rwanda, même celle du M23. Parce que le M23 ne peut pas survivre sans la logistique rwandaise. Et maintenant, on nous a dit qu'il faut aussi négocier avec le M23. Mais les négociations continuent.
Oui.
Nous allons arriver aussi au bout si Kigali veut que le M23 aille sur le sens de la paix, nous irons sur le sens de la paix. Donc, le deuxième aspect va tester aussi la bonne volonté du Rwanda. Dans les conditions que le M23 vont poser, parce que ces conditions, ça sera les conditions du Rwanda.
Exactement.
Parce que les M23 n'ont pas une identité, ils n'ont pas une autonomie stratégique.
Sans l'appui du Rwanda.
Voilà. Donc, les amis doivent comprendre que ce n'est pas une question simple que de négocier la paix. Cet accord, je considère ça comme...
Et le chef de l'État rwandais aux abois suivre la dernière interview qu'elle a faite dans les médias.
Moi, je ne crois pas qu'il soit aux abois. C'est un stratège. Il veut nous faire comprendre que l'affaire n'est pas encore réglée. Qu'il est là. Que ça va continuer à compter. Sinon, nous risquons de tourner
à rond.
C'est ça. Et il a même dit quelque part que personne ne nous empêchera de protéger notre pays. Les personnes là, c'est qui? C'est pas les parrains.
Ce sont des parrains.
Il s'adresse aux parrains, il dit, écoutez, faites ce que vous pouvez faire, mais si nous n'avons pas trouvé notre compte dans les dimensions que nous entendons, nous, on ne marchera pas.
Professeur...
Nous allons vous dire que les FDLR ne sont pas démantelés. C'est pourquoi je lance un cri à l'endroit de ceux qui vont aller faire partie de ces comités de mise en œuvre. Il faut qu'il y ait des indicateurs clairs sur l'appréciation, l'évaluation du démantèlement de cet épouvantail qu'on appelle FDLR. Si il n'y a pas de critères clairs validés par les parrains, Mais un jour, le Rwanda va vous dire non, je ne suis plus partie prenante parce que les FDL ne sont pas démantelés.
Ils ne sont pas démantelés, oui.
Tout à fait.
Oui.
Et j'ai entendu le président rwandais dire que les gens qui parlent, les rwandophones, on les chasse tous les jours, on les tue tous les jours. Nous, les Congolais, nous n'avons pas la culture de tuerie. Hein.
Non,
c'est, nous sommes un peuple hospitalier.
Professeur, on va retourner au standard parce qu'il y a d'autres auditeurs qui attendent. Et puis, nous allons revenir ici au studio. Quelle est la place de l'éthique et de l'équité sociale dans les processus de l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine au Capi Service. Et si ce sujet vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct.
Okapi, encore plus d'infos.
Nous partons cette fois-ci à Bounia pour donner la parole à M. Robert. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour Radio Okapi, Radio de la paix, de l'unité, de cohésion nationale. Hommage à vous.
Merci beaucoup.
Et à l'intervenant.
Merci beaucoup.
Un sujet très très important. L'éthique en politique, en diplomatie, l'éthique est très très importante. L'honnêteté, la sincérité, la crédibilité. Est-ce que les États-Unis, Qatar, les puissances occidentales, les autorités congolaises sont honnêtes, sincères et crédibles? Voilà le problème. Donc, nous allons faire d'amalgame, ne nous tenez pas trop de rigueur, parce que tous les secteurs de la vie sont liés, comme l'intervenant venait de l'aborder. Et nous-mêmes, les Congolais, est-ce que nous avons l'éthique politique? Est-ce que nous sommes honnêtes, sincères et crédibles? Comme je l'ai toujours dit, le but ultime de tout gouvernement, c'est d'amener la nation à l'autosuffisance et à la puissance. Si nous étions puissants militairement, les Rwandais, Kosovo ne pouvaient pas blaguer avec nous, ne pouvaient pas s'amuser avec nous. Voilà une occasion pour dire que, à prévision, on doit accélérer la formation militaire dans tous les 145 territoires. Même à mon âge, à 63 ans, je suis prêt à subir la formation militaire. Donc, vraiment, le sujet est important. Ne soyons pas distraits. Nous sommes victimes d'un vaste complot international. J'ai beaucoup d'arguments pour soutenir mes allégations. À titre illustratif, nous sommes infiltrés par les Rwandais dans tous les secteurs de la vie, dans l'armée, dans la police, dans l'administration, dans les services de sécurité. Nous leur demandons d'être honnêtes, sincères et crédibles. Nous sommes un pays chrétien, un pays pacifique, avec notre président qui a une foi extraordinaire. Hommage à lui, parce que si tout dépendait de moi, à l'instant où le premier village a été pris, on allait mobiliser toutes les forces et même signer la guerre officiellement contre les Rwandais. Ils ne peuvent pas tenir devant nous. Les Rwandais doivent savoir, les Rwandais, les Ougandais, Kosovo doivent savoir que les voisins, c'est les premiers frères. Nous devons nous aimer. Nous ne devons pas nous trahir et nous causer du tort mutuellement. Nos voisins-là ne sont pas honnêtes et sincères. Je suis de Haru. En 2016, par exemple, les Ougandais se sont permis de vouloir reculer la frontière à 2 kilomètres. Les jeunes ont pris les flèches en main pour défendre cet espace. Un commandant bataillon très courageux, il a sommé les Ougandais, il leur a donné 15 minutes seulement. Donc nous avons une armée très très forte, il y a beaucoup de trahisons sur presque toutes les lignes de front. Un autre témoignage, je suis à Bounia, et le bourgmestre honoraire de la commune de Bounia. Un déplacé qui recevait la visite d'un militaire de FARDC, mais de souche rwandaise. Les militaires venaient avec armes et tenues. La dame qui garde le site m'a fait rapport. J'ai dit, dites à ce monsieur de dire à son frère de venir à tenue civile, sans armes. La loi n'autorise pas. Écoutez la réponse. Ichinye no Danietu. Le pays vous appartient, mais l'ordre nous appartient. Non, mais je n'ai rien compris. J'ai envoyé la police et l'ANR pour qu'on arrête ces messieurs. Mais toutes les autorités ne m'ont pas soutenu. Est-ce que nos autorités sont honnêtes, sincères et crédibles? Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Les réseaux sociaux, à la radio, je me réserve de dire certaines choses. Les rencontres sont très importantes. Dans l'avant-midi, je voulais même intervenir. C'est une question épineuse. Il faut qu'on se mette autour d'une table. Société civile, les églises, les universités, donc toutes les forces de la société que les politologues appellent les agrégats politiques. Nous devons analyser cette question en profondeur. Oui, vraiment, je suis très content. Félicitations à l'intervenant.
Merci beaucoup, Monsieur Robert.
Donc, il y a vraiment des nationalistes avérés dans ces pays.
Oui. Merci
vraiment,
beaucoup.
Radio Okapi, soyez bénis. Vous faites des choses extraordinaires.
Merci beaucoup, Monsieur Robert. Et puis, ce sont des questionnements que vous avez soulevés. Bon, chacun de nous, je pense, a une réponse à toutes les questions que vous êtes posées. Si réellement nous sommes du point de vue éthique et de l'équité sociale honnête, est-ce qu'on est sincère dans la démarche? Et ça reste des grandes questions que l'on se pose. Et chacun de nous, je pense, peut se donner une réponse. Et professeur, il aura le temps de revenir là-dessus. Cette fois-ci.
Une courte réponse.
Un instant, on va revenir parce qu'il y a d'autres auditeurs qui attendent. On va retourner aussi au studio. Monsieur Achille, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour Kati, bonjour l'invité, bonjour tout le monde.
Nous vous écoutons.
Merci pour la parole. Alors ici, je voudrais quand même saluer ces accords. En nom de la paix, nous ne pouvons que saluer ces accords. Parce que plus de 30 ans dans la guerre, c'est quand même énorme. Parce que la paix, même si elle vient du diable, elle est quand même la bienvenue. S'il faut échanger, moi je dirais même s'il faut échanger nos minéraux pour obtenir la paix, moi je serais vraiment d'accord. À quoi bon d'avoir tous ces minéraux, à quoi bon d'avoir tous ces biens alors qu'il y a les âmes qui sont perdues tous les jours. Moi je me demande pourquoi on doit toujours avoir ces minéraux alors qu'il y a la guerre, il n'y a pas la paix. Il faut vraiment échanger ça. Moi, si ça dépend de moi, moi je serais vraiment la première personne à être d'accord. Alors ici, il faudra encore signaler la mauvaise foi du Rwanda, parce que vous savez, le Rwanda demande à la RDC de traquer le FDLR. Alors pourquoi ils ne peuvent pas traquer le M23? Parce qu'ils sont complices, n'est-ce pas? C'est pourquoi moi j'ai toujours suivi, j'ai toujours aimé les présidents.
Non, mais ils vont pas venir. Roger Marcel, ils vont pas venir. Excusez-moi, Monsieur Achille, ils vont pas venir le faire chez nous. Nous sommes un pays souverain.
Bon, je suis pas politologue, je ne sais pas comment ça peut se faire, parce que ils demandent quand même de traquer les FDLR. Bon. Et aussi peuvent quand même donner mot d'ordre à ces troupes de se retirer de notre sol quand même, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont sur notre sol, ils peuvent quand même, leur président peut les demander de se retirer. C'est simple. Et si c'est pour ça, j'ai toujours aimé le président Burkina Faso qui a toujours dit de se préparer à la guerre. Parce que les dialogues n'exclut pas la guerre. Parce que, moi, je pense que si ces accords ne sont pas respectés, le plan B pour la RDC serait de faire la guerre.
Naturellement.
Je suis sûr que moi, parce que j'ai déjà participé à des guerres, je sais les conséquences de la guerre, mais que voulez-vous quand tous les jours, par exemple, sur votre radio, il y a tous les jours, non, on a tué à Beni, on a tué à Massiti, on a tué à Ankoro, à Manono, ceci, cela. Ça fait pas quand même du bien, vous voyez. On peut dialoguer, mais cela ne va pas exclure quand même de faire la guerre, de se préparer contre la guerre.
Merci beaucoup, Monsieur Achille. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. Cette fois-ci, prof, on part à Chikapa. On donne la parole à Roger Marcel. Rapidement, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour, Monsieur Kachi. Je salue les professeurs. Je salue les millions des auditeurs qui sont connectés à la fréquence de la paix.
Nous vous écoutons.
Monsieur Kachi, vous savez, l'avantage que je pourrais donner à cet accord, tout d'abord, Kinshasa a voulu les protéger. Son pouvoir. Pourquoi? Parce que vous allez voir comment on peut négocier avec le Rwanda et négocier avec le Rwanda, oublier le M23 et l'ASFI. Parce que je pense que Kinshasa, vraiment, je ne pense pas comment les gens voient un peu les choses. Comment vous pouvez aller direct déborder avec le Rwanda, oublier les M23, oublier les l'AC. Parce que l'AC et les M23, ce sont les mouvements qui sont vraiment à la base de ce qui se passe.
Les négociations continuent, cher Marcel Ladoa, au Qatar.
Je dois arriver à cela. Je pense que notre invité a oublié de dire un peu la vérité. Ce qui nous touche dans notre pays, c'est la vérité. Parce que si vous allez voir, lorsque le M23 a commencé avec les Bounakana, le président de la République n'a pas eu le temps de parler sur ça, jusqu'au niveau de Goma, arriver à occuper Bukavu et les autres. C'est lorsque le président de la République s'est réveillé. Vous vous rappelez, à un certain moment, le président de la République avait commencé à faire la campagne de sensibiliser les gens pour les changements de la Constitution. À un certain moment, lorsque le président lui-même a eu à comprendre qu'on a eu à récupérer Goma et Bukavu, cette campagne-là s'est arrêtée pour les changements de la Constitution. On n'a pas encore eu à avoir un peu le temps là. Lorsqu'on a eu même à demander le secrétaire de l'île de Perse, il n'a pas eu à dire quelque chose pour l'Est et ce genre de choses. Moi, je pense que nous, dans notre pays, on doit avoir le temps de se dire la vérité. Pourquoi? On pouvait aller directement parler avec le M23 et l'AC, aller jusqu'à avoir un peu qu'est-ce qui fait que la paix ne règne pas à l'est du pays, de chercher un peu de se mettre autour d'une table, de négocier, d'avoir un peu, de voir un peu de vraies solutions. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si Kinshasa ignore un peu ce qui se passe à l'est. Il croit que non, c'est le Rwanda qui est à la base de ce qui se passe à l'est. Non! Mais pour le moment, c'est l'ACLM 23 qui sont à la base de tout ce qui se passe à l'Est. Le plus grand problème, ce sont les Congolais eux-mêmes qui sont à la base de ça. Le plus grand conflit. Ce sont les Congolais qui sont à la base de ça. On pouvait se mettre autour...
D'où la dimension, s'il vous plaît, Roger Marcel, d'où la dimension... éthique, l'éthique et l'équité sociale. Merci beaucoup. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Chicapa que vous intervenez. Je retourne ici au studio. Comment répondez-vous à la dernière vague des auditeurs?
Donc,
commençons par Robert Adiokou de Bounia.
Non, ça dit que tout ce que Robert a dit, en fait, c'est les chapeaux, c'est quoi? C'est la crise d'éthique. Nous sommes infiltrés. Ben, on a été infiltrés pourquoi? Ça cause la crise d'éthique. Je voudrais vous dire quelque chose, mon frère. Vous avez un grand professionnel qui a une compétence professionnelle comme Tati. Quand il est devant son micro, il vibre. Vous sentez que la tête là, ça tourne. Mais si il est sans éthique, il fera pas long feu.
Non.
Je vais parler de tous les domaines, même le métier des armes. Il faut l'éthique à la base. Sinon, vous ne formez rien. Est-ce que quelqu'un nous a empêché de consolider notre force militaire?
Non.
Et alors? Est-ce que vraiment nous n'avons pas les moyens de nous équiper?
Nous avons le moyen.
Est-ce que les discours que nous entendons autour de l'organisation, de l'équipement et des campagnes de nos troupes, c'est des discours encourageants?
Non.
C'est pourquoi j'ai dit cet accord, il y a des pesanteurs éthiques qui sont suspendues sur ça. Il faudrait, comme l'autre intervenant a dit, qu'on se mette autour d'une table. Moi, je suis fatigué de ces autour d'une table. Disons-nous la vérité.
La bonne vérité.
Les Congolais aimons la patrie et changeons. Mettons l'intérêt de la patrie devant. Parce que, bon, excusez-moi de parler d'elle, la dame qui occupe aujourd'hui le poste de ministre des Affaires étrangères. Vous avez vu la qualité du travail?
Très efficace.
Mais si tous les Congolais peuvent dire non, aujourd'hui je travaille pour mon pays, dans tout ce que j'ai fait, que je sois militaire, que je sois médecin, que je sois professeur, que je sois journaliste.
Elle est excellente, elle a été très excellente dans la méthodologie, dans la démarche.
Et ça, dans l'humilité, hein?
En toute humilité, oui.
Dans l'humilité, je me dis, mais est-ce que ça ne nous encourage pas?
Ça nous encourage.
De voir que ce pays regorge encore de filles et de fils de ces talents-là, de cette capacité. Pourquoi il faut encore faire des réunions. Des réunions pour faire quoi? Disons-nous la vérité. Changeons. Changeons. Aimons le pays. Parce que moi, j'ai entendu des gens dire, cet accord, comme l'autre auditeur, non, le président, c'est pour sauver son pouvoir. Oh, ça sauve le pouvoir comment?
En quoi?
En quoi ça sauve le pouvoir? Mais il est là, il ne doit rien faire. Maintenant, il ne peut plus rien faire?
Non.
Parce que son mandat va se terminer dans 3 ans? Non. Quelque chose est fait, il faut regarder que quelque chose est fait, il faut l'avouer. Ce n'est pas la solution, mais nous croyons que c'est pas là que viendra là. La solution, si les acteurs sont honnêtes, si l'éthique est dedans. Mais si nous continuons à faire ce que nous voyons que les gens font, de part, surtout aujourd'hui du côté rwandais, ils nous accusent de nous armer. Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda a dit, pendant qu'on négociait, le Congo renforçait les armes, tout ça. Mais personne ne peut nous empêcher aussi de continuer à consolider notre force militaire.
Tout à fait.
Et moi, je suis aussi partisan de cette logique-là, parce que nous savons que les forces armées sont un instrument dans la géopolitique. Pourquoi l'accord...
À son âge, M. Robert a dit même, lui, il est dans la soixantaine, mais il est prêt à aller servir sous le drapeau.
Ben, mais j'ai dit, je vais dire à M. Robert d'éviter d'aller parce qu'il ne saura pas courir. Il ne saura pas courir. Il va rendre l'âme au premier kilomètre. Il peut soutenir cet effort autrement.
Oui.
Déjà, ses prises de position depuis les autres émissions, vous sentez que c'est quelqu'un qui aime le Congo. C'est ce que nous devons tous être. Que chacun, quand il va dormir, qui se demande qu'est-ce qu'il fait pour le Congo quand il se réveille. Qu'on cesse de poser des actes qui nous affaiblissent. C'est là où j'ai dit qu'il y a des pesanteurs éthiques. C'est-à-dire, nous, des fois... Nous jouons contre nos propres intérêts. Nous, des fois, nous faisons quoi? Nous décourageons les efforts qui peuvent mener vers une solution. Cet accord, c'est pas pour que le président garde son pouvoir.
Non. Le mandat, il sera expiré en 2028.
Et il sait que 2 mandats, c'est fini. C'est voilà. Ce que la constitution fait. Bon, il voulait changer la constitution. Est-ce qu'il a changé?
Non.
Ou il menait une campagne pour changer?
Ah, si c'est une action politique, c'est nous on se mêle de quoi?
C'est une action politique, oui. Alors, est-ce que ça allait aboutir, oui ou non? Dieu seul connaît.
Oui. Donc, en même temps aussi, prof, donc, ces sujets nous interpellent tous.
Tout à fait.
La dimension éthique et équité sociale.
Effectivement.
Pour ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo.
Du Congo. En commençant par nous-mêmes. En commençant par nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui devons commencer à intégrer la dimension éthique dans tout ce que nous allons faire dans le cadre de l'exécution des différentes clauses de cet accord.
Merci beaucoup, professeur Daniel Moulenda Lomena Emamba. Nous rappelons que vous êtes docteur en sciences économiques et de gestion. Avec vous, on a eu à tabler sur ce sujet assez intéressant et on espère que ce n'est pas le dernier rendez-vous. À la prochaine occasion.
Merci beaucoup, Tati. Au service de la République.
Merci beaucoup et c'est par ici que nous clôturons ce magazine Okapi Service que j'ai eu l'immense plaisir de vous la présenter sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Biline Landry-Betou s'est occupé de la prise de son et de la réalisation et Paul Badianyama était à l'édition multimédia. Entre-temps, portez-vous bien et bonnes conditions d'écoute de nos programmes.